Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous et tout d'abord à Benon, au nord de Surgères, une manifestation contre le gala du bien commun. Hier soir, 150 personnes, dont des militants antifascistes, ont protesté contre cette soirée organisée par le milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Des personnes qui ont été bloquées par un barrage des gendarmes et tenues à distance de la soirée privée. Les sauveteurs de SNSM de l'île de Ré et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale basé à La Rochelle ont secouru dans la nuit de mardi à mercredi un pêcheur en difficulté à la pointe de l'Aiguillon. L'homme était parti relever ses filets vers minuit, mais il ne donnait plus de nouvelles. Approche a donc lancé l'alerte et prévenu le Crossetel qui a coordonner les opérations de secours. Après 3 heures de recherche, l'homme a été localisé accroché à un pieu de bouchot. Il était en état d'hypothermie et a été hospitalisé à La Rochelle. Le projet de parc éolien en mer au large d'Oléron en panne. Le ministère de l'Industrie a annoncé hier que l'appel d'offres pour le parc 1 s'était avéré infructueux faute de candidats intéressés. Un appel d'offres qui avait été lancé en 2022 et 3 ans après, le parc prend l'eau. Un sacré coup dur pour les promoteurs de l'opération, notamment le port atlantique de La Rochelle, et à contrario, une excellente nouvelle pour les opposants aux éoliennes en mer de Nemo. Alain Daubigné est correspondant de l'association Non à l'éolien marin à Oléron. Il se réjouit de cette nouvelle.
C'est une grande satisfaction puisque le collectif Nemo a mené une bagarre depuis 4 ans environ par rapport à ce projet qu'a donc l'État de construire ce parc éolien à Oléron, au large d'Oléron. C'est effectivement une grande satisfaction. On en a déjà connu une lorsque le parc a été décalé de 15 km à l'origine à 40 km. Donc ça, c'était un point déjà important pour des raisons environnementales, économiques, financières, etc. Là, on ne peut être que réjoui effectivement. Et pourquoi donc? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi donc, les industriels de l'éolien marin, qui étaient une douzaine à être candidats à l'appel d'offres qu'a lancé les pouvoirs publics il y a maintenant un an et demi, 9 ont jeté l'éponge, ont dit on stoppe les frais parce qu'on ne veut pas faire, on ne sait pas faire. Restaient 3 candidats, 2 autres ont également jeté l'éponge, restait plus qu'un seul candidat, Engie en l'occurrence, et dès lors un appel d'offres avec un seul candidat, ça n'est plus un appel d'offres, c'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a dit que l'appel d'offres était fatalement infructueux.
Un projet pharaonique qui n'a pas du tout suscité l'enthousiasme des industriels. Le vent a pas mal tourné sur le sujet de l'éolien offshore, souligne Alain Daubigné.
L'État a en ce moment, pour des raisons que vous n'ignorez point, donc pas mal de un emploi du temps, j'imagine, serré sur des questions plus politiques, économiques, financières. On ne sait pas. Est-ce que l'État va relancer le projet de manière différente? On ne sait pas. Et toujours est-il qu'effectivement, c'est le grain de sable, hein, le parc éolien d'Oléron. Hein. C'est évident. Je pense que les autorités, surtout les industriels, parce qu'en fait, ceux qui ont le savoir-faire en la matière sont les industriels de l'éolien, et eux, il s'avère qu'ils ne croient plus beaucoup, parce qu'il y a un problème de retour sur investissement aussi. Hein. Les industriels, ce sont des entreprises qui fonctionnent selon justement cette notion de retour sur investissement.
Le ministère de l'Industrie n'a pas précisé pour l'instant si un autre appel d'offres sera lancé prochainement. Les grandes manœuvres aujourd'hui à l'hôpital de La Rochelle. Le SDIS de Charente-Maritime va intervenir pour proposer une démonstration au public et aux professionnels dans le cadre de leur instruction, avec une descente en rappel, une présentation des véhicules d'intervention, un déploiement de la grande échelle et des démonstrations avec des lances à incendie. Ça commence vers 14h30 et après ces manœuvres, les sapeurs-pompiers se rendront en service de pédiatrie pour partager un goûter et présenter les uniformes et le matériel aux enfants hospitalisés. Après 2 années passées en Charente-Maritime, il fait ses valises. Pierre-Louis Cyr, directeur de cabinet du préfet, dresse le bilan de son passage dans notre département. 2 années menées au tambour battant avec notamment le plan d'action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, l'expérimentation de nouvelles actions de lutte contre les narcotrafics dans les ports de plaisance, la direction du centre opérationnel départemental, la coordination d'exercices de gestion de crise comme l'opération EOL pour les crises météo ou encore les actions de sensibilisation à la sécurité routière. Et tout avait commencé sur les chapeaux de roue.
J'ai pris mon poste, moi, le 11 décembre 2023 et le 13 décembre, donc 2 jours après, on était en cellule de crise, en COD, pour évacuer la maison d'arrêt de Saintes qui commençait à être inondée par la crue de la Charente. Et en fait, ça a un peu donné le ton au début de mon mandat, puisque pendant ces 2 années, on a quand même eu le droit à 3 crues décennales hein, sur le secteur de la Charente à Saintes, qui ont occasionné plusieurs interventions massives hein, des forces de sécurité civile notamment. On a eu aussi les mouvements agricoles de février-mars 2024, puis d'octobre-novembre 2024. Et il y a eu, et je pense que c'est ce qui restera aussi comme un événement extrêmement marquant pour le reste de ma carrière, cette journée du 20 juillet 2024, qui a été la journée au cours de laquelle on a eu les mouvements anti-bassines qui se sont délocalisés du département des Deux-Sèvres à La Rochelle, avec une volonté de prendre le grand port maritime. Et ça, une journée où à La Rochelle, on a eu 1000 policiers et gendarmes, on a eu des engins lanceurs d'eau, un dispositif de sécurité qui était considérable et à mon avis inédit pour une ville de la taille de La Rochelle. C'est des choses qui marquent et qu'on garde en mémoire longtemps pendant sa carrière.
Pierre-Louis Cyr monte à Paris pour une mission particulièrement importante sur la Nouvelle-Calédonie.
Je vais rejoindre la mission interministérielle pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui est une mission qui vient de se créer. Elle est placée auprès du Premier ministre, avec pour objectif de travailler à la reconstruction du territoire sur les enjeux économiques, sanitaires et sociaux. Et je suis ravi de cette affectation parce que j'avais eu l'occasion d'aller sur le territoire au mois de mai-juin 2024, c'est-à-dire au plus fort de la crise en Nouvelle-Calédonie. J'avais eu l'occasion de voir un territoire qui était ravagé par un mouvement qui était quasi insurrectionnel. Et là, je vais travailler dans une dimension beaucoup plus de long terme, avec une perspective plus positive aussi pour la Nouvelle-Calédonie et pour la reconstruction de ce territoire. Donc c'est vraiment une affectation qui me ravit. Le climat est sans doute plus apaisé d'un point de vue de l'ordre public. Pour autant, la crise a laissé des traces, et des traces fortes et durables. Et c'est ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui pour avoir un territoire dont l'économie reparte, qui soit socialement aussi plus viable, puisqu'il y a des grosses disparités d'un point de vue social et sociétal aujourd'hui sur le territoire. Et c'est ce à quoi cette mission va essayer de s'employer.
Pierre-Louis Cyr laisse plusieurs chantiers ouverts pour celui ou celle qui lui succédera, comme les travaux de réflexion sur les enjeux de lutte contre le cyberharcèlement et la création de la journée départementale dédiée à la résilience, tous égaux face aux risques, dont la première édition se déroulera le 16 octobre prochain à la préfecture. Il est 12h13 sur Demoiselle, on se retrouve dans un instant.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
À Rochefort, la mission locale remet les jeunes au sport. C'est l'objectif du dispositif Sport-toi bien, des ateliers proposés par la mission locale pour lutter contre la sédentarité. Ateliers cuisine, visite de la recyclerie du sport, courses d'orientation ou ateliers sportifs sont au programme pour permettre aux jeunes de retrouver les joies du sport, un levier d'insertion non négligeable. Hier, l'un de ces ateliers était organisé à l'espace jeune de Rochefort, derrière le Stade Rouge. Reportage Adrien Vivenne.
Pour les bienfaits de l'activité sportive, il faut demander à Étienne, inscrit depuis 6 mois à la mission locale.
Franchement, ça libère. Quand on n'est pas dans une ambiance un peu toxique, etc., ça vraiment, ça libère, on n'a que des bonnes pensées.
Avec une quinzaine de jeunes, il vient de terminer une partie de pool ball, un sport méconnu. Deux équipes doivent faire tomber la cible de l'équipe adverse à l'aide d'un gros ballon gonflable, peu connu mais accessible à tous. Christopher, médiateur au service jeunesse de la ville et coach sportif du jour.
C'est assez ludique, c'est ouvert à tout le monde et tous les publics peuvent se mélanger assez facilement sur ce genre de pratique sportive. Le but, c'était vraiment d'inclure tout le monde. Et puis là, on l'a vu, tous les jeunes ont participé sans trop réfléchir finalement. Et c'était le but de cette activité.
À la fin de la partie, un goûter attend les sportives et sportifs du jour. Pas de quoi rassasier les plus affamés, mais juste assez pour prolonger ce moment de convivialité et un aspect particulièrement apprécié par Erwan, l'un des participants.
C'était super bien, on s'est bien amusé, franchement. Puis c'est marrant de savoir que c'est un lieu de partage, de convivialité un petit peu, je tiens à dire. Et il est complètement possible de rencontrer plus de monde dans l'espace jeune. Donc cette activité, c'était pas mal.
Calfaudie est la jeune maman d'un petit garçon de 8 mois. Grâce aux ateliers de la mission locale, elle arrive enfin à sortir de chez elle.
Ça peut te faire oublier beaucoup de choses et ça peut te faire donner du courage. Comment vivre dans ta vie, si tu vois beaucoup de personnes, ça te donne du courage. Je suis très content et je remercie la mission locale de me faire envoyer de cette... Atelier.
Au-delà de l'activité sportive proposée, les ateliers sont aussi et surtout des moments où les jeunes se retrouvent et tissent des liens, le début de leur réinsertion dans le monde du travail. Marilyn Motion-Fougera, chargée de projet santé à la mission locale.
Tisser des liens avec d'autres jeunes, partager un moment convivial, Ça les aide à redonner du sens à leur démarche d'insertion professionnelle, reprendre confiance, ça les valorise. Et nous, ça nous permet après, en tant que conseillère, vraiment dans l'accompagnement vers leur insertion socio-professionnelle, de les amener plus facilement vers l'emploi ou la formation.
Un cycle qui se terminera fin novembre.
Adrien Vivenne, 2000 km à vélo pour sensibiliser le grand public à la spondylarthrite. C'est le défi de Corinne Durand, surnommée Colibri, de passage hier à Rochefort. Avec sa chaîne MyWay, elle parcourt chaque jour une cinquantaine de kilomètres. Elle est partie le 1er septembre de Clermont-Ferrand. Elle est passée par la Haute-Loire, l'Ardèche, Carcassonne, Toulouse et donc la Charente-Maritime, avant de se diriger vers la Dordogne et le retour à Clermont-Ferrand. Objectif, faire connaître cette maladie méconnue dont Karine souffre.
La spondylarthrite est une maladie auto-immune, inflammatoire. Donc le système immunitaire déréglé lance des inflammations sur la colonne vertébrale, les sacro-iliaques et les articulations secondaires. Pour se défendre, les articulations risquent de s'ossifier et c'est ainsi qu'on peut se retrouver avec une colonne vertébrale entièrement soudée. L'inflammation peut également toucher les yeux, le cœur, les poumons et le système digestif. C'est une maladie dont je suis atteinte et pour lutter contre cette maladie, outre les traitements qui dorénavant ont une belle efficacité pour ralentir l'évolution de la maladie, je lutte avec le sport et une alimentation raisonnée. C'est une maladie qui touche environ 1% de la population, qui est très méconnue et comme vous pouvez le voir, elle est invisible et c'est une grande difficulté pour certains patients qui en sont atteints car pour eux c'est la double peine. Non seulement ils sont dans la souffrance, mais comme ça ne se voit pas, quand ils expriment cette souffrance-là, on leur rétorque qu'il faut qu'ils arrêtent de se plaindre, qu'aujourd'hui tout le monde a mal au dos, etc. Et donc leur souffrance n'est pas reconnue.
Direction La Rochelle aujourd'hui pour Corinne Durand, fin de ce périple à vélo prévu pour le 9 ou 10 octobre. Une page Facebook pour suivre ses aventures, Corinne Colibri Durand.
Demoiselle, interview.
Arnaud Dautricourt, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes chargé de production culturelle pour le CIM, le Centre International de la Mer de Rochefort, une véritable institution. On vous a invité parce que vous fêtez quand même les 40 ans du CIM. Rappelez-nous comment est né le centre.
Alors ce Centre International de la Mer, qui est une association qui accueille donc les visiteurs pour visiter la corderie, est né début des années 80 par un rassemblement de personnalités dont le maire de l'époque de Rochefort, Jean-Louis Fraud, un de ses adjoints, Emmanuel Lopez, et puis des gens qui venaient du ministère de la mer, notamment Bénédicte Donnelly, et donc l'idée de créer un centre culturel maritime dans cette corderie qui venait juste d'être rénovée et donc il fallait faire comprendre au public à quoi elle servait, pourquoi elle avait été là. Donc ce centre culturel à vocation maritime, c'est devenu le Centre International de la Mer et on s'est installé en 1985 avec une première exposition qui s'appelait « Rochefort au fil de la Charente ». Et donc depuis, on continue à faire couler l'histoire de la mer et les histoires maritimes dans cette corderie.
En coulisses, ça venait un petit peu de très haut, c'est descendu de l'Élysée cette idée ?
Alors, oui, il y avait aussi un environnement qui était politique, qui était propice, puisque le président de la République de l'époque, François Mitterrand, était de Charente et donc avait une sensibilité pour le fleuve et tout ce qui amenait vers la mer. Et donc, le chargé de mission, qui était Bénédicte Donnelly, quand il est arrivé à Rochefort, a fait remonter l'enthousiasme qu'il y avait sur cette ville pour faire vivre la mer et le fleuve. Et donc, du coup, les portes se sont un peu plus ouvertes.
Et donc depuis 40 ans, vous célébrez le patrimoine maritime.
Oui, on est au cœur d'un arsenal, l'arsenal de Rochefort, et qui n'avait que pour vocation de construire des bateaux pour partir en mer. Et nous, on amène la mer à Rochefort avec nos expositions temporaires, mais on explique aussi ce qu'est une corderie, qu'est-ce qu'on y faisait, c'est quoi un cordage pour armer les navires. Et pendant à partir de 1997, on a même animé les visites autour du chantier de reconstruction de la frégate Hermione.
Depuis 40 ans, quel bilan vous dressez ?
Alors, depuis 40 ans, en 40 ans, on a accueilli 4,5 millions de visiteurs. On a produit près de 90 expositions temporaires sur la vocation maritime. On a fait des tas de rencontres. On a accueilli deux festivals, dont le dernier qui continue toujours, qui est le Festival des Mémoires de la Mer, fait avec aussi l'association Hermione et le Musée maritime, le Musée national de la Marine. Voilà, donc on invite la mer sur notre parvis à Rochefort, et c'est ce qu'on va faire aussi dimanche.
Alors parlons justement des festivités. Qu'est-ce qu'on a au programme ?
Alors, ce qu'on sait à peu près faire, c'est-à-dire on va accueillir des artistes qui nous parlent du fleuve, dont Benjamin Caillot, Nicolas Floch, qui a photographié la couleur de la mer, que vous pourrez découvrir ou redécouvrir. Et puis on va avoir un petit côté festif, hein, donc on va accueillir des équipements pour le jeune public, hein, qui va permettre aux familles de jouer au baby-foot. Voilà, donc là ce sera les hippocampes contre les poissons. Voilà. Et puis, on sait faire du cordage, donc on va inviter avec nos amis de longue date, hein, c'est-à-dire les chanvriers de Montjean-sur-Loire et puis la corderie Palu qui est à Brive, qui est la dernière corderie en long en activité. On va réaliser un cordage, et pas n'importe quel cordage, un cordage bleu. C'est la première fois qu'au Centre international de la mer, on fera un cordage bleu. Et le tour aura un accompagnement musical autour de la mer et la chanson. Voilà, donc on va pouvoir fredonner des chansons populaires qui ont toutes comme base un élément maritime.
Le président Olivier Poivre d'Arvor sera là ?
Alors, il est très occupé, je ne suis pas certain qu'il soit présent, mais en tout cas, c'est une nouvelle dimension que nous donne ce nouveau président, puisqu'il est arrivé il y a un an, et qui va donc nous refaire parler de l'estuaire et du fleuve. On a eu, il faut que je cite aussi les autres présidents, donc avant Olivier Poivre d'Arvor, c'était Henri Jobé-Duval, qui nous a amené, lui, des artistes qui évoquent le monde maritime à travers leurs œuvres. Et puis bien avant, Eric Orsena, qui est toujours très présent, hein, sur Rochefort, notamment avec le nom de qu'il a donné à la médiathèque juste à côté de chez nous, médiathèque Eric Orsena, et qui donc lui nous a fait travailler autour de l'aventure maritime et l'aventure humaine de la mer. Et puis avant, donc Paul Guimard, qui était donc le tout premier président, qui était aussi écrivain et qui a marqué aussi la naissance de la corderie.
Olivier Poivre d'Arvor a fixé une nouvelle orientation.
Oui, cette nouvelle orientation est tournée autour du fleuve. L'idée est de dire que cette petite rivière, comme disait Henri IV, même si c'est la plus belle du royaume, mérite d'avoir un éclairage particulier, et il souhaiterait que les fleuves du monde viennent à Rochefort, ce qui est un bel enjeu et une belle nouvelle aventure pour les 10 prochaines années.
Arnaud Dautricourt, merci. Rendez-vous donc ce dimanche à la Corderie Royale pour les 40 ans du Centre International de la Mer. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Entre nuages et éclaircies, Pierre.
Ça sera plutôt les nuages cet après-midi, Emmanuel. En effet, ce matin, on a eu quelques rayons de soleil, un petit peu timides, mais bon, voilà, vous le voyez, en cette mi-journée, c'est assez mitigé sur une bonne partie du département. Côté température, eh bien, on reste comme hier, hein, avec pas plus de 18 degrés du côté de Jonzac, Marennes et Saint-Félix. On va relever 17 degrés. La maximale attendue du côté de La Rochelle, Saint-Palais-sur-Mer, Rochefort, Crasanes, Chaniers et Dampierre-sur-Boutonne. Pour votre vendredi, dans l'ensemble, ça s'annonce plutôt sec avec des éclaircies en matinée avant l'arrivée dans l'après-midi de quelques gouttes, notamment du côté du sud du département. Et ce week-end, eh bien, samedi, c'est assez couvert, dimanche, ensoleillé et un mercure qui remonte un tout petit peu.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est deux adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'avion, direction La Rochelle, et 92 avenue de Bel Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France. Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.